tous réclament des actes plus forts pour lutter contre le changement climatique.
La pollution au plastique, de plus en plus envahissante.
Plus verte la vie. Comment des habitants de notre région, entre Berry, Centre-Val de Loire ou Poitou-Charentes, agissent pour répondre aux défis climatiques. Un podcast du groupe La Nouvelle République.
Être résilient le plus possible.
Pourquoi c'est si compliqué de bien manger ?
Aujourd'hui, il est urgent d'agir.
Circuit court, venir des éco-citoyens.
Bonjour, je suis Adrien Planchon, journaliste à La Nouvelle République. Aujourd'hui, je vous amène à la ferme de Bréviande, à Romilly-du-Perche, en Loire-et-Cher. C'est là que Clément, éleveur caprin, s'est lancé dans l'agroforesterie.
Bonjour, on se trouve où exactement ici ?
À Romilly-du-Perche, sur la ferme de Bréviande, où on pratique l'agriculture bio depuis 1964. En élevage caprin, avec des chèvres qui vont en pâturage 6 mois dans l'année à peu près.
Il y a combien de chèvres ici ?
110.
110.
On transforme tout et on vend tout en local.
Alors vous avez opté, il y a quelques temps maintenant, pour l'agroforesterie. Je vais me tourner vers Florian. C'est quoi exactement l'agroforesterie ? Pour expliquer très simplement.
Alors l'agroforesterie, il s'agit d'associer la culture d'arbres avec la production agricole. Donc l'objectif, c'est de bien associer les plantations d'arbres qu'on met en place avec la pratique agricole de l'exploitant. Et que ça soit bénéfique dans sa pratique.
C'est assez récent ou c'est une pratique plus ancestrale ?
Alors ici, on se situe dans le Perche, donc c'est très ancestral d'associer les avec la production agricole. Et ici, notamment par exemple à Bréviande, on essaie de trouver des usages un petit peu plus modernes, comme les arbres fourragés, même si c'était pratiqué depuis longtemps. Mais on essaie de trouver des données scientifiques pour mettre les bonnes variétés d'arbres et que ça puisse vraiment être bénéfique à l'exploitation agricole et que ça apporte vraiment des choses positives en plus de la pratique agricole existante. Mon travail, c'est d'essayer d'apporter un regard technique aux exploitants sur le sujet de l'arbre pour que du coup, les végétaux qu'on va mettre en place, ils soient bien adaptés à ce que attend l'exploitant. Ça peut être d'abord couper le vent, ça peut être faire de l'ombre pour des animaux, ça peut être recréer un complément fourrager avec des variétés bien spécifiques d'arbres, par exemple.
Je vous propose de nous avancer. Alors, Clément, votre exploitation, elle est sur combien d'hectares ?
Elle est sur 30 hectares, où on a autosuffisant d'alimentation, que ce soit pour le pâturage, le foin ou les céréales. Et aujourd'hui, on s'est tourné vers une augmentation du linéaire de haies. Alors déjà, ça nous sert pour en bois de chauffage, pour briser le vent. On va l'utiliser, on a commencé à faire un test là, pour le pâturage, arborer des chèvres avec notamment des essences qui sont chargées en tanins condensés qui permettent de réguler des parasites. Aujourd'hui, les moyens de régulation de ces parasites sont compliqués avec les produits vétérinaires.
Comment vous est venue cette idée de l'agroforesterie ?
J'ai toujours été entouré par les arbres, j'ai eu une formation d'élagueur, j'ai une bonne connaissance sur les arbres et tous les usages qu'il peut y avoir, et notamment le point de vue agronomique du sol. Et là, depuis quelques années, le Pradel et d'autres centres de l'INRA de recherche se sont rendus compte que les arbres fourragés étaient bénéfiques pour les chèvres.
On s'avance ?
Ouais. Alors là, on peut voir une haie qu'on a plantée il y a 2 ans.
Juste ici, hein.
Ouais, et qui permettra de couper du vent, d'abriter les chèvres de l'ombre au pâturage, et après tous les intérêts agronomiques qu'il y aura pour le sol. Celle-ci, elle fait 700 mètres, je crois. Et dedans, on a mis 10, 15 essences différentes, et il y a eu un petit peu de mortalité l'année dernière, et du coup, on a complété avec d'autres essences encore différentes. On va même jusqu'à mettre du conifère, des arbres méditerranéens. C'est aussi dans le but de faire des tests, parce qu'on sait que des arbres d'ici, à terme, avec le climat, ne se sentiront plus à l'aise, notamment le charme, le merisier peut-être.
Je me tourne vers Florian. Là, ces essences d'arbres, est-ce qu'elles sont classiques, si j'ose dire, de l'agroforesterie ?
Alors oui, elles sont classiques dans le sens où aujourd'hui, on met pas toute la stratégie sur la même espèce, donc on essaie de diversifier dans les linéaires. Et comme le disait Clément, avec le climat qui change, on plante pas un arbre pour seulement les quelques prochaines années, on les plante pour 30, 50, des fois 100 ans à venir. Donc on est obligé d'anticiper l'évolution du climat et de commencer à diversifier les espèces, notamment avec la remontée d'espèces méditerranéennes qu'on commence à implanter chez nous. Ça peut être par exemple du chêne vert, ça peut être chêne pubescent, voilà, comme des espèces qui sont plus classiques du sud, qui sont déjà partiellement présentes dans notre territoire et qu'on augmente dans nos plantations. Et du coup, on essaie vraiment de réfléchir, et c'est tout mon travail avec l'association La Maison Botanique, d'apporter ce conseil aux agriculteurs et les pousser à réfléchir au long terme.
J'allais vous poser la question, justement, comment vous travaillez avec les agriculteurs à La Maison Botanique ?
Tous les ans, on accompagne des agriculteurs dans la réflexion de projets d'agroforesterie, où on les accompagne. Moi, je vais dans les fermes, je prends un temps de discussion, je prends surtout les objectifs des agriculteurs. Dans certains cas, ça peut être couper le vent, ça peut être augmenter la biodiversité, augmenter la quantité de pollen pour les pollinisateurs. Et du coup, moi, mon travail est vraiment de faire des préconisations à la fois sur les zones où on implante les haies pour pas qu'elles gênent les pratiques agricoles, et puis aussi sur les espèces qu'on va mettre en place pour qu'elles soient bien adaptées à la fois au sol et en même temps aux objectifs, comme je l'ai précisé juste avant.
C'est un travail de longue haleine. Combien il faut de temps entre le moment où vous prenez contact avec l'agriculteur et le moment où on plante les haies, justement ?
En général, on parle à peu près d'une année pour faire la conception jusqu'à la plantation. C'est-à-dire que là, actuellement, on est au mois d'avril. Et depuis un mois ou deux, j'ai été voir déjà un certain nombre d'agriculteurs pour bien anticiper les projets, pour qu'à l'hiver prochain, puisque les plantations se font en période hivernale, on puisse mettre en place ce qu'on est en train de réfléchir en ce moment. Et puis, y a des échanges pendant plusieurs semaines avec les agriculteurs pour être sûr que le projet correspond bien à leurs attentes et que quand on va faire la plantation, ça soit vraiment au bon endroit avec les bonnes espèces.
Est-ce que vous sentez les agriculteurs de plus en plus réceptifs à cette question du changement climatique ?
Oui, on voit que qu'ils y réfléchissent beaucoup ou pas, de toute façon, ils sont impactés dans leurs pratiques. Et du coup, de plus en plus de personnes se posent des questions sur comment ils vont adapter leurs pratiques à l'évolution du climat. Et l'agroforesterie, c'est un des outils qui peut permettre d'atténuer le changement climatique et d'anticiper cette évolution du climat et de préparer un petit peu pour demain, puisque les plantations prennent un peu de temps, du coup, la ferme et puis son adaptation au climat qui évolue.
Justement, en quoi souvent le réchauffement climatique impacte les producteurs ? C'est quoi les principaux problèmes, si j'ose dire ?
Eh bien, typiquement, en ce moment, on voit qu'on a eu un printemps qui a démarré très fort. Et là, arrive devant nous une petite période de froid. Donc, ça peut être de couper des vents froids qui sont un peu tardifs au printemps, où les espèces ont déjà leurs bourgeons qui sont sortis. Et du coup, ça pourrait impacter pas mal de choses. On voit aussi les animaux qui peuvent être de plus en plus en souffrance avec des fortes chaleurs en été, quand ils sont dans des pâtures où il n'y a pas de présence d'arbres et du coup, pas de présence d'ombre. Donc, l'idée, c'est par exemple de commencer tout de suite à faire des plantations d'arbres pour créer l'ombre de demain, pour que les animaux, pendant les périodes les plus chaudes de la journée, puissent aller trouver de l'ombre sous des haies, sous des arbres isolés ou sous des alignements d'arbres présents dans les parcelles de pâturage.
Clément, donc, qui a choisi de planter cette haie.
Nous, on sait que tous les matins, même en plein été, il y a un millimètre de rosée qui sort du sol, qui va permettre d'hydrater les plantes. Et en été et à cause du vent, et ben l'humidité s'évapore tout de suite. Alors que quand on a des haies, on voit, nous, on a des petites parcelles encaissées, entourées de haies. Souvent, le matin, la rosée dure plus longtemps et la production de la prairie est plus élevée.
Clément, vous êtes relativement jeune. Est-ce que vous avez vu, justement, évoluer déjà vos pratiques agricoles à cause du réchauffement climatique ?
Oui, on change même d'espèces prairiales. En test, on a essayé quelques trucs. On s'est rendu compte aussi, il y a les trois dernières années, des étés très secs, où on se rendait compte que derrière les haies, c'est là où il y avait une grosse production. En plein milieu de champ, il ne se passe plus rien. À l'automne, les arbres perdent leurs feuilles et perdent aussi des racines qui vont enrichir le sol en humus, qui va lui permettre de stocker de l'humidité.
On peut avancer ?
Ouais, on peut aller voir la bande de prairies de bandes fourragères en test. On l'a planté que cet hiver et on verra, on a fait trois itinéraires techniques Mais c'est vraiment pour tester et voir le côté pratique de la chose et productiviste aussi.
Je me tourne un peu vers Florian. Le réchauffement climatique, parfois, ça peut paraître lointain, surtout quand on habite en région Centre-Val de Loire, ou plus précisément dans le Loir-et-Cher. Pourtant, on le ressent déjà.
Oui, on ressent, par exemple, le régime des pluies qui est plus aussi régulier qu'avant. On a des périodes qui peuvent être très intenses. On sort d'un hiver qui est assez pluvieux, donc c'est une bonne nouvelle pour recharger les nappes, qui étaient quand même un petit peu mis à mal ces dernières années. Mais ça n'empêche pas qu'on a des étés qui sont de plus en plus secs et que du coup on voit des problématiques sur la pousse de l'herbe, même sur les arbres, hein, qui pour certaines espèces sont de moins en moins adaptés. Donc ça c'est une chose. Et au niveau agricole par exemple, on a techniquement ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc c'est l'évaporation des plantes, qui est augmentée par des périodes où on a du vent, des périodes de forte chaleur, et ça déshydrate en quelque sorte les végétaux. Et quand on a des haies qui coupent le vent, qui ramènent une ambiance un peu plus humide, bah du coup, ça permet d'atténuer ces problématiques-là, quoi. Donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui pour l'agriculture, c'est de réussir à se projeter dans ce climat évoluant et puis à trouver des solutions techniques pour s'adapter.
Et là, on est sous une haie de chênes pédonculés qui ont à peu près 100 ans. Ils font 15 mètres de haut. Et on peut voir dans la parcelle l'herbe est la plus verte, là, on est au printemps. Elle est quand même sous les chênes. Bon, en été, ce sera différent, mais pour le moment, c'est là. Et si on se baisse, on voit qu'en dessous, sous la prairie, qu'est-ce qu'il y a ? Que des feuilles mortes, qui vont permettre une activité du sol et une augmentation de la production d'herbes. Et en bio, on peut pas se permettre d'utiliser des insecticides, des fongicides. Et l'idée d'avoir des haies, c'est aussi d'augmenter la biodiversité pour que les auxiliaires viennent réduire les parasites qui pourraient être présents en grande culture.
Finalement, c'est une manière aussi de continuer en bio.
Une espèce de théorie qui s'appelle le 4 pour 1000, où en fait on travaille moins pour produire plus, quoi. Et celle-ci, si l'agriculture conventionnelle ne se met pas à réfléchir à ça, au bout d'un moment ils seront dépassés, ils n'auront plus de solution.
Il y a un autre enjeu aussi vis-à-vis de l'évolution du climat, c'est la teneur en matière organique du sol. Donc ça, c'est la quantité de carbone qui est présente dans le sol ou l'humus qu'on a en forêt, par exemple. Grâce aux haies et aux feuilles des arbres qui tombent tous les ans, ça permet en quelque sorte gratuitement d'avoir cette matière organique qui vient dans la parcelle. Alors que des fois, dans certaines pratiques, on est obligé d'apporter des composts, d'apporter des fumiers pour augmenter cette matière organique. Et la matière organique, elle a tout l'intérêt, c'est qu'elle permet d'avoir naturellement une dynamique des végétaux, puisque ça les nourrit, mais aussi de mieux retenir l'eau dans les sols. Et ça, c'est essentiel, puisqu'on a parlé du fait que on a des périodes de plus en plus longues sans pluie. Et du coup, le fait d'avoir des sols qui sont riches en matière organique, ça permet d'avoir une résilience plus forte dans le temps pour la pratique agricole.
La pluviométrie, c'est un vrai enjeu actuel. Est-ce qu'on s'y est pris suffisamment tôt ? Parce que vous disiez, là, on est dans des changements de pratiques. Est-ce que ces pratiques, elles ont été véritablement anticipées ?
Ça, c'est une vraie question, hein. Est-ce qu'en France, on s'est posé les questions assez tôt pour le réchauffement climatique ? Je ne sais pas si je peux me permettre de répondre. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit que toutes les filières se posent des questions. Après, sur les manières d'y répondre, il n'y a pas toutes les mêmes options qui sont mises sur la table. Mais en tout cas, l'agroforesterie, aujourd'hui, ça me paraît être une solution agroécologique très pertinente pour s'adapter.
Combien de producteurs, d'agriculteurs ont opté pour l'agroforesterie dans le Loir-et-Cher ?
C'est difficile de quantifier parce que du coup l'agroforesterie, il y en a, on va dire, usuelle, c'est-à-dire qu'il y a encore des haies présentes dans plusieurs secteurs du territoire, notamment dans le Perche, on a encore beaucoup de haies bocagères. Est-ce que tout le monde a conscience de faire de l'agroforesterie ? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on a une demande d'un certain nombre d'agriculteurs avec la maison botanique. On accompagne entre 10 et 20 projets par an de plantation de haies ou de réflexion à la plantation de haies. Donc c'est intéressant, on voit qu'il y a une dynamique et que ces dernières années, il y a un vrai regain d'intérêt pour le sujet.
Donc là, on arrive à la ferme.
Oui. Et bien là, on va aller voir le bâtiment d'élevage où il y a les chèvres. Si elles sont là, ça se trouve, elles sont parties dehors.
Alors Clément, il y a 120 chèvres, c'est ça?
Ouais, 110 en production et une vingtaine de chevrettes de renouvellement. Du coup, on les traite deux fois par jour, matin et soir. On transforme tout en lait cru. On fait des fromages lactiques et des pâtes chauffées, tom et type cabrichon.
Vous vendez en direct?
Oui, en direct et sur des 3 marchés et 3 biocoop Vendôme et Blois.
Voilà, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.